mais qui nous fait réfléchir. Animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h. Et également, la fin de semaine de 8h à 10h en compagnie de Jacinthe-Ève Harel. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Je suis jamais fâché. C'est pas souvent, je suis jamais fâché.
C'est
non,
ça, hein,
ça,
exactement.
Je crois pas, c'est louche.
J'aime ça. C'est le good vibes only. J'aime bien ça. Rémi, tu veux nous parler d'un événement que là, certaines personnes veulent annuler. Pourquoi?
Oui, bien, ça se passe. Ça se passe le 26 mars, c'est organisé à l'Université Laval et c'est un événement dans lequel on organise un panel qui est constitué par trois personnes que vous connaissez bien à Québec, Alex Boissonneau, député du Parti québécois dans Arthabaska, Benjamin Tremblay, qui est le créateur de la chaîne 7 jours sur Terre, qui est, je pense, ne pas me tromper en disant la chaîne québécoise avec le plus d'abonnés, peut-être pas loin de celle de Victoria Charlton, mais c'est un exploit que ce gars-là, de mon âge à peu près, ait réussi à faire ça. Et Étienne-Alexandre Beauregard, qui est anciennement à la CAQ, désormais chercheur à l'Institut Cardus. Donc, c'est un panel.
Et juste pour dire, Étienne-Alexandre Beauregard, que vous entendez sur nos ondes à l'émission On en jase régulièrement. Et mardi prochain, il sera là pour nous parler du sous-financement des organismes communautaires, parce que ça va être la semaine. Le communautaire à bout, et il a fait une étude là-dessus.
Ouais, ah ben oui, c'est vrai qu'il vient souvent à votre émission. Et là, il y a les féministes en mouvement de l'Université Laval qui dénoncent la tenue de la conférence qui est organisée par le Parti québécois et de l'Université Laval, parce que là, il y a un comité du Parti québécois à l'Université Laval. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que ce sont des panélistes qui ont tenu des discours traditionnalistes, traditionnalistes, imaginez-vous, discriminatoires, haineux. Et là, on n'acceptera pas ça sur le campus. Moi, j'ai vu ça passer, puis je me suis dit, hey, on vit plus à cette époque-là. C'est terminé. Ça, c'est tellement 2019-2020, ça. Ouais. On est passé à autre chose, là.
Mais Pascal, maintenant, on est capable. Pascal, Étienne, Alexandre, il y a des propos haineux quand il vient à notre micro?
Non.
OK. Non, ça, j'ai posé la question. Pascal, c'est une femme?
T'as bien fait, t'as bien fait. Puis je sais que Pascal est membre de cette organisation-là.
Non, plus.
À partir des rumeurs. Non, non, mais haineux, discours haineux. Discours haineux, ça, on a entendu ça souvent, puis on s'est finalement rendu compte que ça voulait dire, malheureusement, parce que ce mot-là a quand même un sens, haineux, mais souvent, ça veut juste dire « je suis pas d'accord avec quelqu'un », fait qu'on va dire que c'est un discours haineux, si on l'a vu à l'œuvre. Mais là, discours traditionnaliste, moi, je salue quand même l'audace de ces féministes en mouvement.
Ça sort de où, ce mot-là, Rémi? Explique-moi, là.
Ben, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on a des gens qui sont parmi le panel qui sont un peu conservateurs, c'est-à-dire qu'ils le voient pas dans la modernité.
Attends, on va demander à Pascal. Pascal est une femme traditionnaliste. Pascal, tu utilises ça tous les jours?
Arrêtez, il y a du monde qui va y croire, hein? Vous savez, c'est quoi la radio, là?
Non, mais c'est incroyable, cette histoire-là. Et là, on nous invite donc à envoyer des courriels pour dénoncer. Et là, il y a comme 5 ou 6 adresses courriels différentes. On veut vraiment être sûr que ça se rende et que ça se signale. Et je vous disais donc, il y a quelques secondes, j'ai l'impression que ça, c'est du passé. Moi, je pensais qu'on était passé à autre chose. Je pensais qu'on était prêt à s'asseoir avec des gens, que des fois, on en donnait une à l'adversaire, entre guillemets. Bon, ben regarde, voici un lancement très à gauche, avec du monde très à gauche qui passe une soirée ensemble. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Voici un événement où il y a plus de gens qui sont marqués à droite, bah, c'est quoi le problème? Idéalement, on met toutes sortes de gens sur les panels, mais moi, pour avoir un podcast et une émission de radio et être marqué à droite, je peux vous dire une chose, c'est un défi de les avoir, souvent, les gens qui sont marqués à gauche. Donc, ça, les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là doivent le savoir. Des fois, quand vous avez un panel de gens à droite, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « on va juste inviter du monde à droite », c'est parce qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui refusent la conversation, qui refusent de se mêler. Moi, on me répond des fois « ma gang ne sera pas d'accord ». Ma gang ne sera pas d'accord parce qu'il y a une pression sociale qui s'accentue lorsque vous traînez avec certaines personnes. Donc, c'est pas des accidents, là, les panels.
Ils ont peur de se faire étiqueter à droite au sein de leur propre groupe parce qu'ils participent à des panels où il y a une pluralité d'opinions ou ils ne veulent pas être vus en leur compagnie ou ils accusent qu'ils seront mal cités.
Ben, c'est toutes ces choses-là. Après, moi, ça n'engage que moi et mon expérience. Moi, dans mon expérience, j'ai eu affaire avec des gens plus à gauche que je voulais inviter, avec qui je voulais discuter. Et souvent, on me disait, je veux pas, tu sais, être vu. Moi, je t'aime bien, mais tu sais, moi, je vais devoir m'expliquer. Bon, alors moi, j'ai jamais eu besoin de m'expliquer quand je me faisais inviter par des gens à gauche. Peut-être parce qu'il y a moins de gens qui estiment que je commets une faute grave lorsque je m'assois avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Mais revenons à ce panel-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction. Parce que si vous allez dans les commentaires, c'est la page des féministes en mouvement de l'Université Laval qui publie ça. Dans les commentaires, généralement, on devrait imaginer que c'est favorable au message parce que c'est sur une page avec des membres de la page. Oh, boy! Allez faire un tour. Je ne sais pas s'il y a un commentaire positif et favorable à cette démarche de censure pour 10 commentaires de gens qui disent ça va faire, là. On a déjà joué dans ce film-là, ça donne rien, il faut converser pour avancer et c'est surtout pas
Est-ce
dangereux
que ça leur
d'écouter du
cause
monde qui ne pense pas comme
problème?
nous.
Est-ce que ça leur cause problème parce que c'est des hommes qui font le panel et qu'il n'y a aucune femme?
C'est pas ce qui semble être dénoncé, là, pour être tout à fait
Parce que
honnête. Après,
ça
on
aurait pu être
peut.
réfléchi, tu sais. Ça, admettons, tu veux pas mettre de l'huile sur le feu ou tu veux vraiment être inclusif ou tu veux vraiment, exposer le plus possible toutes les vécus. Et bon, on peut pas faire du genré en 2026, mais le fait d'avoir une femme autour du panel, ça aurait pu peut-être calmer les ardeurs, non?
Oui, peut-être, mais je vois pas. C'est bizarre parce que c'est une bonne question que tu me poses, Pascal, parce que ce sont des féministes en mouvement. On aurait pensé effectivement que leur préoccupation numéro un, c'est la présence d'une femme, mais c'est pas ça. On prend par exemple Alex Bossono, on dit qu'il est, et je cite l'affiche là, connu pour ses tendances de droite, ses discours urgentistes promouvant les concepts de capacité
Seigneur,
d'accueil et d'immigration incontrôlée.
connaissent pas le même Alex Boisselot
Je
que
te dirais que beaucoup d'animateurs diraient complètement le contraire sur cet homme-là.
moi, là. À Québec, oui,
Non,
je
c'est
sais,
ça.
puis tu sais. Non, mais la capacité d'intégration, ce n'est pas un concept urgentiste. Si vous avez une pièce dans un 4,5, si vous avez un 4,5, vous ne pouvez pas faire rentrer 1 million de personnes. Vous pouvez en faire rentrer un certain nombre. Si vous en faites trop rentrer, les gens vont tomber par la fenêtre et tomber par le balcon qui va fendre sous le poids des gens. Ça, c'est ça une capacité d'accueil. C'est la capacité de faire rentrer un certain nombre de personnes sur un certain territoire qui est muni de certaines institutions pour les accueillir. Benjamin Tremblay, on dit qu'il est préoccupé par les abus des immigrants, tant par rapport à la bienveillance des Québécois qu'au laxisme législatif canadien. Je précise quand même que Benjamin Tremblay, le 99% de son travail concerne la géopolitique, là. Donc, on est peut-être allé chercher une affaire qui le dit à un moment donné et on dépeint un personnage en fonction de ça. Étienne-Alexandre Beauregard, c'est un ambassadeur, je ne savais même pas, et chercheur pour l'Institut Cardus, un think tank chrétien qui se positionne notamment contre l'avortement. Donc, Étienne-Alexandre, un ami à moi, il est pour l'avortement. On n'a jamais eu cette discussion-là autour de la table. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui s'axe dans ce type de
Non.
conservatisme-là.
Exactement. Le point positif là-dedans, Rémi, c'est qu'il y a 10 commentaires positifs pour un commentaire de censure. Et que les gens veulent le dialogue, ça me réconcilie avec les étudiants de l'Université Laval.
Oui, puis pas juste les étudiants, mais le monde en
Ben
général. Et
oui.
c'est précisément ce que tu viens de dire, Jeff, c'est-à-dire qu'on dit on est pour le dialogue. C'est pas qu'on dit, par exemple, ah, gang d'extrême gauche, gang de
Non.
ci, gang. Il y en a des commentaires comme ça, en toute franchise. Mais ce que je remarque le plus, ce sont des gens qui disent arrêtez, une conversation, ça n'a jamais tué personne. On est capable, ça va bien aller. Ajoutez un petit arc-en-ciel si ça vous tente.
Rémi, deuxième sujet, la guerre en Iran, ça fait la manchette à chaque jour. Là, présentement, le détroit d'Ormuz est bloqué. Il y a peut-être des pays qui vont venir aider les Américains. Mais là, si on est autant dans de beaux draps avec cette guerre-là, c'est parce qu'on a les États-Unis qui ont décidé de bouger seuls. On a une Amérique qui ne se tient plus du tout, là.
Non, pour gagner une guerre, là, c'est vieux comme le monde, puis l'une des meilleures leçons de ça, c'est la guerre du Vietnam, si on prend l'exemple américain. Ça prend une nation unie et soudée derrière un objectif commun. Et l'Amérique est divisée, d'accord? Pas depuis Trump. Trump a pris le pouvoir en 2016 et en 2024 en étant capable d'aller chercher une majorité de gens qui pensaient comme lui, mais l'Amérique était tout autant divisée avec un Joe Biden, par exemple, et vers la fin du mandat de Barack Obama. C'est difficile pour les Américains de se lancer dans une guerre. Vous avez une majorité de personnes qui disent non, ça ne nous tente pas. Non, nous, on est encore traumatisés par l'Irak, par l'Afghanistan, par des soldats qu'on a envoyés là-bas pour rien, parce que beaucoup sont revenus dans des bas des bagues. Et finalement, qu'est-ce que ça a changé en Irak? Qu'est-ce que ça a changé en Afghanistan? Les talibans ont repris le pouvoir. Donc, tu ne peux pas gagner une guerre, surtout pas face à une civilisation comme l'Iran. L'Iran, elle, a la capacité de se tenir beaucoup plus soudée que l'Amérique en ce moment, qui, à certains égards, est décadente, ne s'entend plus sur des codes de conduite et sur certaines valeurs et certains principes. Donc, moi, je vois cette guerre-là s'en aller directement dans un mur. Les Américains vont sortir progressivement de ça, vont devoir annoncer aux Israéliens que ce n'est pas leur guerre, que c'est la leur, à eux, les Israéliens, et qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, et surtout qu'ils n'ont pas d'acceptabilité sociale. C'est pas possible de gagner une guerre quand vous êtes aussi divisé à l'intérieur. Quand vous avez, par exemple,
200
vas-y.
milliards de dollars qu'on a dit que ça pourrait coûter à terme. C'est clair que les Américains veulent pas.
Mais dans les années 70, il y a un rescapé des goulags qui s'appelait Solzhenitsyn, qui s'était réfugié au Vermont et qui avait fait un discours à l'université Harvard. Donc, les étudiants de Harvard s'attendaient à un discours anti-URSS, et lui, c'est un rescapé des goulags qui est venu dire aux Américains dans les années 70, le problème avec vous, c'est que vous ne formez plus une société. Si vous manquez d'électricité pendant 24 heures, vous allez commencer à péter des voitures et à voler des magasins et à aller voler chez le voisin, alors que chez nous, on est capable d'en manquer pendant un mois et on est capable de s'entraider parce qu'on forme un tout uni. C'est un visionnaire, cet homme-là, parce que 50 ans plus tard, je ne peux pas imaginer, dans un scénario même optimiste, que les États-Unis ont réglé ce problème-là.
Je pense qu'il joue aussi avec le sentiment de sécurité des Américains qui est hautement ébranlé depuis quelques années. Tu sais, on a vu même le peuple se fragmenter au sein même des États, au sein même d'une municipalité. Les gens s'en prennent aux autres. Puis là, de savoir par le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, qu'il n'y a même pas de plan pour finir la guerre, ça les insécurise, c'est sûr. Déjà, dans leur propre municipalité, leur ville, ils sont en train de s'entre-déchirer. Tu vas y aller par État, tu vas y aller par pays, tu vas y aller avec le Canada puis ses alliés habituels. Puis après ça, tu t'en vas dans le monde avec aucun plan fixe. Peut-être qu'ils commencent à se rendre compte de l'ego et de l'impulsivité de leur chef d'État, là, ben de Donald Trump, tout simplement.
Ben oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs niveaux de division. Tu as la population qui est divisée, puis
Oui.
tu as aussi les plus proches de Donald Trump. Tu as le numéro un du counter-terrorism, de l'antiterrorisme qui démissionne. Dans le Wall Street Journal, la fin de semaine dernière, samedi, c'était démontré là, dans le détail combien Donald Trump s'était bâti un petit entourage avant de déclencher la guerre le 28 février. Puis il y avait bien peu de gens autour de lui, dans les deuxièmes niveaux de proximité, qui étaient informés de ça, puis qui étaient surtout d'accord avec ça. Donc, vous avez une base MAGA est divisée en deux, vous avez une population qui est divisée en deux, puis vous pensez vraiment que vous allez gagner la guerre contre une civilisation perse en plus de ça? Impossible.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te jaser. On parle avec toi les mardis et jeudis à l'émission On en jase aux alentours de 13h10. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon week-end et du bon temps sur les ondes du 99.5 Montréal.
Bye bye à vous deux, toujours un plaisir.
Salut Rémi. Rémi Villemur, chroniqueur pour nous à l'émission On en jase et animateur au 99.5 Montréal.